La fondation Un souffle et des ailes, très beau nom pour une fondation, entreprend la construction d'une ressource d'hébergement pour jeunes adultes lourdement handicapés. Ça se passe à Roxton Pound et j'en parle avec Manon Gauvin, créatrice de la fondation et maman aussi d'Anthony qui vit avec une sévère paralysie cérébrale. Bonjour Madame Gauvin.
Bonjour à vous.
Merci beaucoup de prendre le temps d'être avec nous pour nous raconter votre projet. Un projet qui est né de quelle façon, Madame Gauvin?
C'est né avant 2013. Dans le fond, j'avais demandé de l'hébergement répit pour Anthony. Quand il a pris 21 ans, là, on sait le gouffre, le trou de service qu'il y a là. Puis j'avais demandé quelles étaient mes options pour obtenir un peu de répit occasionnellement. Mm-hmm. Puis on m'avait proposé un CHSLD. Donc, après quelques mois de réflexion à ce sujet-là, parce que ça me tentait pas du tout, j'ai décidé d'envoyer Anthony, puis ça a été une expérience qui s'est avérée vraiment malheureuse. On a négligé Anthony toute la fin de semaine. Là, il y a eu une enquête du commissaire aux plaintes, puis finalement, en tout cas, c'était pas très... Fait que suite à cette mésaventure-là, j'ai pris conscience que la place d'Anthony était vraiment pas en CHSLD, et c'est l'unique... option qu'on me proposait là, pour Anthony, là, si jamais un moment donné ma santé me lâchait ou s'il y avait une situation dans ma vie qui me poussait à être dans l'obligation de me départir de cette charge-là, on me proposait seulement des CHSLD, puis moi j'étais vraiment pas d'accord avec cette solution-là, donc est né le projet de la Fondation Un souffle des ailes pour amasser les fonds, pour construire ce milieu de vie-là qui permettrait à 8 usagers là, d'avoir un milieu de vie qui est plus adaptée à leurs besoins que de se retrouver avec une clientèle qui a trois fois leur âge, là.
Alors, ça fait plusieurs années que vous amassez des fonds justement pour réaliser ce rêve-là de construire un milieu de vie pour votre enfant, mais pour d'autres personnes aussi, d'autres adultes en situation de handicap.
Oui.
Ça a été... Comment vous vous êtes prise pour amasser? Parce que vous avez amassé 500 000 $ et même plus?
Oui, un petit peu plus. Là. On avait traversé... on doit être à 5... C'est parce que là, les sous commencent à sortir, ça fait que c'est difficile d'évaluer, mais tout a commencé, là, on était près de 520 000 $. Là. On a atteint notre 500 000 $ cet été, donc on savait que la construction débuterait à l'automne parce que dès le départ, l'objectif principal était d'amasser 500 000 parce qu'on savait que ça coûterait au moins ça. Mm-hmm. Nous, on est en entreprise, en excavation, donc on a déjà beaucoup de contacts dans le milieu de la construction qui suivent notre cause depuis le début puis qui sont prêts à aider. Donc, on savait qu'avec 500 000, là, on était proche d'être en mesure de concrétiser un projet comme celui-là. Fait qu'on l'a franchi cet été. Fait que là, on part la construction. Là, on a fait la première pelletée de terre la semaine dernière. Là.
Ben oui. Donc, ça a dû être un moment assez émouvant, ça.
C'est de la fierté, hein, puis c'est de la reconnaissance que je ressentais surtout ce matin-là. La reconnaissance envers tous les gens qui nous ont qui ont cru en moi, premièrement, parce que j'étais une maman qui a essayé de faire les choses à sa manière puis qui a défoncé des portes pendant 7 ans de temps. Donc, reconnaissante envers les gens qui m'ont suivi, qui m'ont cru, qui ont assisté à nos événements, qui ont aidé, puis qui aident encore, puis qui sont derrière nous, là. Donc, ouais. C'est touchant.
Alors, justement, pour quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans une construction de maison telle que celle qui va être donc construite et qui va nécessairement être ouverte, je pense, en 2021.
Ouais, l'objectif est le printemps 2021 d'être en mesure là d'ouvrir les places l'une à la fois là.
Mais j'étais curieuse de savoir comment vous avez réussi à amasser un demi-million de dollars.
Ça a commencé avec un projet Canette. Au départ, je savais pas comment m'y prendre, mais au départ, ma cofondatrice, c'était la conjointe de Michael Rancourt, l'imitateur mm-hmm. et chanteur. Et donc, on avait une belle porte ouverte aussi sur le milieu artistique pour créer des spectacles bénéfices. Donc, il y avait le projet Canette qui m'inspirait. Puis
le projet Canette.
Oui, je l'appelais de même. Le projet récupération de Canette, et on a avancé 225 000 $ juste wow. avec ce projet-là. Donc, c'est un projet qui est devenu là à grandeur de la région. Les gens ont installé des boîtes à canettes dans leur entreprise, dans leur résidence privée. Puis là, quand le sac est plein, ils nous appellent. Puis là, c'est mon papa de 83 ans qui fait la tournée avec un véhicule qu'on là, on a arraché les banquettes puis qu'on a mis des toiles dans le fond. Puis là, ils ramassent nos sacs puis ils rapportent ça ici. Puis là, moi, je fais le triage avec... avant la COVID, c'était avec des jeunes adultes handicapés intellectuels légers à qui j'offrais un milieu de travail pour non rémunéré, mais pour les sortir de leur isolement. Maintenant, c'est avec moi et ma voisine qui vient faire un peu de bénévolat pour moi.
Donc, ça se poursuit. Là, si on va aller vous porter des canettes, on se rend à Roxton Pound?
Ben, il y a un conteneur sur le terrain de la fondation. Oui, il y en a un autre à Granby à la cantine épicerie de la rue Reynolds. Puis,
c'est très bon à savoir.
C'est le projet là, qui continue effectivement. Là.
Oui, oui, oui. Et donc, une fois la résidence prête, vous allez, comment vous envisagez de financer la maison?
Bon. Là, j'ai eu une conversation assez sérieuse avec les CRDI hier, justement.
Les CRDI, ça veut dire quoi, ça?
Le Centre régional de la déficience intellectuelle.
Ouais.
Donc, moi, mon fils est régi par le CRDI parce qu'il y a une déficience intellectuelle. Donc, les autres usagers que j'envisage d'accueillir vont tous relever du CRDI, mais ça, c'est une fois seulement que j'aurai passé le processus d'accréditation. Et c'est très important que je le mentionne. Parce que là, c'est ça. Faut que les gens comprennent que j'ai un processus d'accréditation à passer. Donc, c'est moi qui va être évalué, moi et mon mari, à savoir si on est apte à opérer ce milieu-là. Mais le bâtiment va appartenir à la fondation à vie. Donc, la ressource va exister à vie.
OK.
Pour une raison X, moi, je répondais pas aux critères d'évaluation et d'accréditation. Je vais alors tomber à la recherche d'un autre couple qui serait prêt à prendre en charge cette ressource-là et qui répondra, eux, aux critères d'évaluation du CRDI. Donc, c'est vraiment seulement après cette accréditation-là qu'on va être en mesure d'accueillir les usagers. Et quand ça relève du CRDI, l'enveloppe budgétaire suit le jeune. Il y a un système de cotation de 1 à 6 selon la sévérité des handicaps et des besoins de ce client-là. Puis là, il y a une attribution financière qui vient du CRDI pour chaque usager. Donc, ces sous-là permettent de loger, de nourrir et d'opérer un milieu comme celui-là.
Parce que vous avez l'intention, avec votre mari, d'opérer cette maison-là.
Oui, pour quelques années, là, je vais prendre en charge la ressource, là, jusqu'à ce que je sente le moment de me retirer, soit par épuisement ou la santé. Donc, pour quelques années, je vais le faire. Puis, mais en ayant créé ça de cette façon-là, c'est ça la beauté, c'est que quand moi, je voudrais me retirer, la ressource pourra continuer d'exister. Je tomberai seulement à la recherche de 2 autres personnes qui sont prêtes à être évaluées par les CRDI pour être accréditées, pour être en mesure de prendre en charge la ressource et ils vont pouvoir poursuivre mon travail. Moi, je vais toujours demeurer un peu dans le décor parce qu'en étant la fondatrice de la fondation et la directrice et la présidente, le bâtiment va continuer d'appartenir à l'organisme. Donc, je vais toujours un peu être dans le décor. Ces gens-là vont devoir louer le bâtiment à la fondation, comme moi, je vais devoir louer le bâtiment à la fondation pour être capable d'opérer la ressource. Mm-hmm. Donc, ça va assurer la pérennité de la ressource.
Et comment vous allez choisir vos résidents? Il y aura donc 8 chambres. Le projet, c'était 10 au début, puis là, c'est maintenant 8?
Oui, parce que dans le fond, au-dessus de 9 usagers, ça tombe une ressource commerciale. C'est un autre paire de manches. C'est vraiment complexe et ça me tentait pas du tout d'aller dans cette direction-là. Donc, j'ai resté à 9 usagers au moins. Puis pour la forme du bâtiment, c'était plus facile de descendre à 8 pour faire un corridor avec 4 chambres de chaque côté. Donc, mon fils prenant une chambre, il reste 7 places. Comment je vais les sélectionner? Je peux pas les sélectionner. C'est le CRDI qui va me proposer des usagers. Et là, je vais être en mesure d'accepter la charge de cet usager ou là ou non en fonction du bon pairage avec mon fils. Parce que dans le fond, moi, mon but, c'est de protéger mon fils. Donc, je pourrais pas me permettre, lui qui est si vulnérable, sans défense, je pourrais pas me permettre, mettons, d'accueillir un usager qui se désorganise, qui devient agressif, qui est capable d'agresser d'autres usagers. Je pourrais pas me permettre d'aller dans une ligne comme celle-là parce que il pourrait agresser mon fils. Donc, je veux pas mettre la vulnérabilité de ma clientèle en jeu. Donc, je vais rester dans une clientèle qui ressemble à mon fils, qui on appelle ça un bon pairage. Puis, je vais accepter les cas qu'ils vont me proposer selon le milieu va être tout adapté. Donc, la clientèle que je vise, c'est la clientèle avec une DI, mais avec une déficience physique aussi. Où je veux intervenir, c'est d'éviter que cette clientèle-là se retrouve en CHSLD. C'est souvent les usagers avec des graves déficiences physiques qui se retrouvent en CHSLD parce que c'est là qu'ils ont les équipements pour les mobiliser. Moi, je vais avoir ça. Fait que naturellement, là, j'espère qu'on va prioriser cette clientèle-là dans mon milieu. Là.
Et puis, Anthony vous suit dans ce projet-là?
Ben oui.
Ça le rend pas de mal?
C'est pour lui qu'on fait. Ben, tu sais, est-ce qu'il comprend tout ça?
Il doit ressentir quand même quelque chose.
C'est ça, tu sais, je pense qu'il sent que maman a fait des grandes choses pour lui depuis 7 ans. Il est toujours présent au spectacle bénéfice, donc il voit toutes les gens, je le présente sur la scène, les gens l'applaudissent. Donc, il est confiant, je pense, que maman a fait a déplacé des montagnes.
Des pieds
pour
et
lui.
Des mains.
Ouais, mais tu sais, à quel point, je ne sais pas, là, mais en tout cas, ouais. C'est pas ça l'important.
Mais en tout cas, l'amour d'une mère, l'amour d'un père aussi, ça n'a pas de limite. Et exemple avec vous. Manon Gauvin, bravo, puis on souhaite que tout se réalise avec le moins d'obstacles possible. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Un souffle et des ailes. J'en viens pas, je trouve ça vraiment joli comme nom.
On a trouvé ça bien beau d'appeler ça de même. On essayait d'imaginer un peu le service qu'on va rendre aux parents de trouver un milieu comme cela. Puis là, on se disait, on va les faire respirer.
Ah oui.
On va leur redonner une liberté qu'ils n'ont pas eue depuis longtemps. Donc, respirer un souffle et des libertés des ailes. Donc, c'est de là est venu le nom.
Bien, merci encore une fois, Manon Gauvin. Puis on salue aussi la municipalité de Roxton Pond qui a été généreuse dans la réalisation de votre projet.
Oui.
Merci, bonne chance.
Merci. Puis, à vous.
On va se reparler certainement. Bonne journée.
OK, merci. Bye.